France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1955, le philosophe Ferdinand Alquier publiait « Philosophie du surréalisme ». Dans son avant-propos, il y présentait ainsi sa démarche. « Philosophie du surréalisme » ne veut pas signifier « philosophie surréaliste ». On objecterait trop aisément que les surréalistes ne sont pas philosophes au sens strict. C'est essentiellement par la poésie et par la peinture qu'ils se sont exprimés. Et notre temps n'est sans doute que trop porté à confondre philosophie et art. Mais il confond bien aisément aussi la philosophie et les sciences. Or, pour distinguer celle-là de celle-ci, il faut apercevoir que la philosophie est démarche de l'homme tout entier et non système de l'objet. Il n'est pas douteux en ce sens que la recherche surréaliste est quelque chose d'à la fois non littéraire et non scientifique, qu'elle vise à l'observation et à l'exploration de domaines négligés par la physique comme par les arts. Ces procédés sont aussi irréductibles aux méthodes rationnelles qu'à l'expression proprement esthétique. En outre, le surréalisme comporte une véritable théorie de l'amour, de la vie, de l'imagination, des rapports de l'homme et du monde. Tout cela suppose une philosophie que je me suis efforcée d'isoler et de dégager. À l'occasion de la parution de Philosophie du surréalisme, Ferdinand Alquier était l'invité de Pierre Cipriot dans l'émission Thèmes et controverses, dans laquelle son livre était soumis aux interrogations de Aimé Patry, Michel Carouge, Robert Amadou et Julien Gracq. Pour comprendre ce qu'il y a de cartésien, de kantien et de platonicien dans le surréalisme, et plus particulièrement dans la pensée d'André Breton, Thèmes et controverses avec Ferdinand Alquier pour son livre « Philosophie du surréalisme ». Première diffusion, le 9 mars 1956, sur la chaîne nationale.
Et voici Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres par Pierre Cipriot. 51e émission, le surréalisme et les philosophies. À propos de l'ouvrage de Ferdinand Alquier, Philosophie du surréalisme. Avec la participation de Robert Amadou, Michel Carouge, Julien Gracq, Aimé Patry et l'auteur Ferdinand Alquier, professeur à la Sorbonne.
Il y a 4 ans, au cours d'entretiens radiophoniques qui ont été publiés en 1952 chez Gallimard, André Breton déclarait que le surréalisme, luttant contre les processus de pétrification qui n'épargnent ni les systèmes ni les hommes, continuait de tenir bon. Cette vigilance suppose un art de déblayer, une façon de jouer des coudes au milieu de toutes les sollicitations latérales qui, en raccrochant par-ci par-là, pouvaient lutter contre les principes du mouvement ou le faire aller dans une direction déterminée. Tout d'abord, disait en substance André Breton, que je résume et paraphrase, le surréalisme ne s'est pas complu dans une trop grande complaisance envers soi-même, mais il a toujours cherché à maintenir ses effets par une suite de manifestations souvent déroutantes qui un moment le cachaient à lui-même et aux autres pour le dévoiler après, ce qui revenait à préférer l'exercice à la parade, tenir secret ses dons pour mieux utiliser les ressources. Deuxièmement, au lieu d'adopter les mots d'ordre abstentionniste, agir le moins possible, ne pas prendre de risques, qui sont les maximes des gens arrivés, le surréalisme a entretenu son zèle en faisant plus qu'il ne devait, strictement, et en particulier dans l'ordre social. Troisièmement, ce zèle n'a jamais cédé à l'emportement politique qui brise la résistance personnelle par la soumission aux événements ou à quelque idée fataliste. On a souvent cherché ce qui séparait le surréalisme de la religion, comme de toutes les idéologies, eh bien, il me semble que ce n'est pas le doute, mais bien des croyances, Au fond, le surréalisme forme, avec ce qui existe, un ensemble imperméable. Il résiste, il fait corps, il surnage, comme de l'huile dans de l'eau, fort contre tout. Le mouvement est entré en littérature comme une quête spirituelle que Julien Gracq a pu comparer à la marche du Graal. Ce qui semble en effet important, c'est que dans un monde artistique qui, sous l'influence de Nietzsche, était livré à la distinction de l'apollinien et du dionysien, c'est-à-dire le spectacle des formes d'un côté, l'ivresse de l'autre, l'art surréaliste supposait à la fois la perfection formelle et l'inspiration. Comme le symbolisme, il s'efforçait de préserver un ensemble de valeurs essentielles, mises à l'abri de toute souillure. Mais alors que le monde symboliste était la maison du vide, avec au-dessus cette chose rare, un beau verre, la maison surréaliste était la maison du plein, et surtout la maison de la jeunesse, au moment où une guerre meurtrière venait d'enlever les meilleurs. Au-delà d'une école littéraire, au-delà de toute méthode d'invention et de création, au-delà de tout système, le surréalisme est d'abord une idée révolutionnaire qui reconnaît le bien fondé des entraînements les plus passionnés de la jeunesse. Jeunesse posée comme invulnérable, comme créatrice d'un haut idéal qui lui donne sans cesse le dessus, si elle veut bien se servir de ses dons, faire flamboyer ce qui veut brûler en elle et ne pas renoncer à voir, même si cette clarté est inventée à mesure qu'elle chemine. De l'instant même, nous dit Breton, où l'attitude surréaliste s'est précisée, ça a été pour exalter la jeunesse, pour la conjurer de ne pas se laisser trop vite déposséder de ses trésors, pour lui enjoindre de n'avoir à compter que sur elle. Il faut bien voir aussi que ce programme n'a pas craint d'apparaître à la lumière du jour, et que le monde ne lui a été d'aucune gêne, ne l'a pas voilé. On craint toujours l'usage et l'usure pour ces doctrines irréductibles. Or, le surréalisme s'est maintenu sur une piste, donnant tout son effort, ne ménageant rien. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre les principaux épisodes qui ont renouvelé le mouvement depuis 1924, date du premier manifeste d'André Breton. C'est d'abord la fondation du bureau de recherche surréaliste qui donne à la doctrine ses assises scientifiques et documentaires. À partir de 1925, c'est l'effort pour libérer l'homme en cherchant les moyens de cette libération et en concevant que ce qu'on cherche vaut mieux que ce qu'on trouve. Puis, c'est une prise de position à l'égard du Parti communiste qui apparaît comme une lueur, mais une lueur qu'on peut aussi repousser. Puis, c'est l'alliance avec les peintres, en particulier Salvador Dali. En 1929, second manifeste surréaliste, où Breton entend rester un révolutionnaire, donner l'exemple d'une force de rupture, où la pensée se remet sans cesse en marche par une logique qui lui est propre et qui ne va jamais trop loin. En 1930, Breton et Éluard publient ensemble l'Immaculée Conception, ouvrage sur la vie intérieure et dont la double signature atteste que même sur ces registres singuliers de l'existence, dès qu'on dit ce qu'on pense, sans exagérer sa pensée, des identifications sont possibles entre les consciences et ces identifications permettent de s'assurer mieux. Après le congrès de Kharkov de 1931, où Aragon passe au Parti communiste, c'est l'ouvrage de Breton « Position politique du surréalisme », ouvrage qui date de 1935. En 1938, signalons la rencontre de Breton et de Trotsky. En 1942, les prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, publié à New York. Et en 1947, l'exposition surréaliste à Paris. Pour s'être interrogé sans cesse sur l'homme, pour avoir jeté un fil conducteur entre les mondes de la veille et du sommeil, de la nature intérieure et de la réalité extérieure, de la raison et de la folie, du calme, de la connaissance et de l'ivresse poétique, du bonheur et de la révolution, le surréalisme compose désormais tout un système du monde dont les philosophes sont enclins depuis quelques années à vérifier l'impartialité, la logique et les conclusions. Avec l'ouvrage de Ferdinand Alquier, « Philosophie du surréalisme » qui vient de paraître chez Flammarion dans la bibliothèque de philosophie scientifique, nous avons cette fois un livre qui exprime les exigences internes et les fins essentielles du mouvement surréaliste en même temps que son apport dans l'observation et l'exploration de l'homme. Ses théories de l'amour, de la vie, de l'imagination, des rapports de l'homme et du monde. C'est ce livre qui va être maintenant présenté et discuté avec la collaboration de l'auteur, Ferdinand Alquier, professeur à la Sorbonne, de Michel Carouge, de Julien Gracq, d'Aimé Patry, Robert Amadou, dirigeant la controverse. Les interlocuteurs de Ferdinand Alquier vont sans doute être amenés à opposer à la situation du surréalisme tel qu'il le décrit, la vocation du mouvement, car il y a une façon proprement philosophique d'appréhender la vérité qui n'est pas la manière du poète et du chercheur. Pour Alquier, le surréalisme, par le nécessaire développement de la part de freudisme et donc de rationalisme qu'il a accueilli, mais l'homme au milieu du monde, au centre des choses, comme au principe de ses propres pensées. Ce qui conduit à se poser la question « qu'est-ce que l'homme ?» afin de fonder l'accomplissement humain sur quelques propriétés fondées réellement et dont l'attribution ne voile point la précarité réelle de la condition humaine. C'est pourquoi, à l'opposé de la plupart des doctrines romantiques, le surréalisme n'a admis qu'avec réserve l'illumination, les révélations, l'occulte, dans la mesure où cela nous jetterait au premier parti qui s'offrirait. Ou plutôt, le surréalisme a admis tout cela, mais dans la mesure seulement où il reconnaissait dans ses horizons et ses fantasmes intérieurs les signes de l'essence de l'homme. Le surréaliste rêve, mais son rêve, c'est son humanité et c'est le monde. Ceci dit, je laisse la parole à Robert Amadou.
Il me semble que c'est le grand mérite de M. Ferdinand Alquier et de son livre intitulé « Philosophie du surréalisme » que d'avoir négligé volontairement toute anecdote ou toute considération purement littéraire pour dégager ce qu'il appelle la philosophie du surréalisme. On remarquera que pour sauvegarder l'intention même de Breton et des surréalistes de son groupe, c'est-à-dire de ne pas être un inventeur de systèmes, et pour bien marquer la forme souvent déroutante où le surréalisme traite des questions les plus graves, M. Alquier n'a point appelé son livre « La philosophie surréaliste », mais bien « La philosophie du surréalisme », c'est-à-dire « Réponse philosophique impliquée dans toute l'attitude, dans toute l'œuvre littéraire ou critique du surréalisme, proprement dit, en particulier d'André Breton ». Et c'est peut-être par là qu'il convient de commencer notre entretien, par cet étonnement qui nous saisit devant l'attitude souvent choquante des surréalistes. C'est une attitude qui n'est pas choquante de manière fortuite, par hasard, mais essentiellement choquante pour libérer l'homme est le but du surréalisme.
Toute philosophie, à mon avis, veut libérer l'homme. Ce n'est pas en cela que le surréalisme se distingue des autres philosophies. Il y a chez tous les philosophes un certain désir de changer la condition de l'homme, mais de la changer par une certaine connaissance. L'effort que j'ai fait, c'est précisément de voir les différents postulats de connaissance contenus dans l'œuvre surréaliste. On considère en général cette œuvre comme une œuvre de révolte, comme une œuvre politique, comme une œuvre littéraire, comme une œuvre esthétique, mais il m'a paru qu'il y avait aussi un autre aspect que je voulais mettre en lumière, c'était l'aspect connaissance. Il n'est donc pas étonnant que j'ai surtout insisté sur cet aspect sans considérer le moindre du monde qu'il soit le seul.
Monsieur Julien Gracq.
Oui, c'est là-dessus précisément que je me trouve un peu en désaccord, je crois, avec Alquier. Je voudrais m'en expliquer avec lui honnêtement. Je suis sur aucun point, je crois, de son livre, je ne pourrais me trouver en désaccord formel. Presque toujours, lorsque l'objection me venait, en le lisant, le correctif qui me paraissait nécessaire arrivait au paragraphe suivant. Mais je lui ferai plutôt un procès, en ce qui me concerne, en ce qui concerne l'éclairage qu'il a donné au surréalisme, qui n'est pas exactement pour moi celui que je lui vois. Je me disais, au fond, en lisant ce livre, Alquier aurait pu, si ce n'était un précédent trop connu, appeler son livre à peu près « Le surréalisme est un humanisme ». Au centre de ce livre, il y a l'homme avec ses limitations, avec ses contradictions, avec ses impasses, ses infirmités. Et alors, il n'est pas étonnant qu'Alquier retrouve, et c'est très juste, une démarche qui est analogue à celle de philosophie déjà connue, Kant, quelquefois, Descartes ou Hegel. Mais la question que je me pose, c'est si le surréalisme est véritablement un humanisme. Pour moi, c'est peut-être là une optique différente, le surréalisme a cherché précisément, évidemment on pourrait trouver des textes qui diraient le contraire, comme dans tout mouvement vivant, il y a des contradictions, mais le surréalisme a cherché à faire un saut tout de même incalculable au-delà de cette condition. Quand on parle du surréalisme, on dit le mouvement surréaliste plutôt que la doctrine surréaliste. Et alors, le reproche que je fais un peu à Alquier, c'est de l'avoir montré un peu comme une doctrine contemplative, une vision du monde, alors qu'il a cherché, il a été une espèce d'insurrection contre l'invivable, au fond. Et c'est son accent particulier, c'est ce qui fait pour moi son originalité. Je lui reproche un peu, si vous voulez, de montrer très bien, remarquablement, le surréalisme en face de l'obstacle, mais de n'avoir pas dit assez qu'il avait essayé de sauter. Car pour moi, c'est ce qui fait, c'est la marque particulière, c'est ce qui fait pour moi l'intérêt du surréalisme. C'est là-dessus que portera surtout mon objection.
Je crois que sur ce point, il faudrait distinguer deux choses. Que le surréalisme ait fait effort pour sortir de la condition humaine, C'est un fait incontestable et je pense que je l'ai dit. Mais j'ai été également frappé par le fait qu'il est extrêmement prudent quand il affirme qu'il en sort. Je m'explique. Prenez les différentes saisies du mystère, de l'au-delà. Le surréalisme est toujours tenté par une certaine magie. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il ne succombe jamais tout à fait à cette tentation. Breton, d'une part, a toujours l'impression qu'il va saisir un certain message, et d'autre part, quand il faut qu'il se déclare à proprement parler occultiste ou mage, il déclare qu'il ne sait pas très bien de quoi le signal qu'il saisit est le signal. Et c'est cette prudence que j'ai appelée l'humanisme. C'est-à-dire qu'il y a bien chez lui un certain désir de sortir de la condition humaine. Mais quand ce désir, si je peux dire, passe à l'acte, on trouve toujours un extrême scrupule, si je peux dire. Et que peut être ce scrupule, sinon précisément celui de ne pas dépasser l'homme, de ne pas se lancer dans une sorte d'aventure arbitraire. C'est cela qui m'a surtout frappé.
En traitant de philosophie du surréalisme, vous avez été naturellement amené à comparer le surréalisme à d'autres systèmes philosophiques, ou plutôt à des systèmes philosophiques, et en particulier à poser une question de source, d'une façon qui m'a paru assez nouvelle par rapport à la manière dont on l'avait posée précédemment. Je pense notamment au problème des rapports du surréalisme avec la philosophie de Hegel, d'une part, et d'autre part au problème des rapports du surréalisme avec l'ésotérisme. Peut-être pourrions-nous parler d'abord de Hegel, si vous voulez bien. Je crois que vous mettez cause une certaine filiation affirmée entre Hegel et le surréalisme.
En ce qui concerne Hegel, il serait évidemment très long de me lancer dans un discours technique. Je pense que les idées fondamentales de Breton étaient fixées en 1924, et je ne pense pas qu'à ce moment-là, il ait déjà beaucoup subi l'influence de Hegel. C'est donc venu peut-être plus tard. Non ? Qu'en pense Patrick ?
Ah, moi, je crois que si. André Breton m'a toujours dit, n'est-ce pas, qu'il avait été attiré par Hegel en raison de la répulsion que précisément avait pour ce philosophe son professeur, M. André Cresson, qui était un positiviste. Il faisait pique-pendre de Hegel, n'est-ce pas, et que c'est ce qui l'avait attiré de ce côté. Alors je pense que l'attention portée par André Breton du côté de Hegel est assez ancienne et date peut-être, n'est-ce pas, des bancs même du lycée.
Sur ce point, je suis particulièrement heureux de ce que me dit Patrick, mais ce que je voulais dire quand je disais qu'en 1924, Breton ne me semble pas encore avoir vraiment subi l'influence de Hegel, c'est que, d'après ce qu'il nous dit lui-même de sa pensée, il est surtout, avant cela, un poète. Il est surtout un homme qui est allé voir Viollet-Griffon, qui est allé voir Valéry, et qui se pose avant tout des problèmes littéraires, à ce moment-là, je dis, et non pas des problèmes hegeliens. En outre, ce qui me paraît fondamental chez André Breton, c'est qu'il a toujours maintenu avec force les droits de la certitude individuelle. Les textes en sont nombreux, j'en cite beaucoup, tous ceux qui ont lu André Breton en ont à l'esprit. Il l'invite à une certaine révolte individuelle, il parle de ces gens qui n'ont jamais subi le pli, etc. Or, la philosophie de Hegel, c'est exactement le contraire de cela. Hegel, c'est essentiellement l'homme pour lequel tout ce qui n'est pas universalisable et tout ce qui n'est pas un certain logos universel est vain, pour lequel l'intuition est vaine, pour lequel vouloir atteindre le vrai tout seul est absurde.
Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure en écoutant Alquier, et je voudrais faire encore une autre objection. C'est que l'exposé qu'il fait du surréalisme ne tient peut-être pas compte assez du fait que le surréalisme s'oppose aussi à quelque chose qui était avant. Je crois qu'une doctrine est, bien entendu, ce qu'elle dit explicitement, mais l'accent est évidemment mis dans cette doctrine tout de même sur ce qui s'oppose à ce qui était avant. Et peut-être, en faisant un exposé un peu serein, un peu détaché peut-être de la doctrine surréaliste, peut-être Alquier, pour moi, l'a-t-il un peu trop détaché du contexte. L'accent était mis sur certains points. Et il me semble que cet accent, la révolte par exemple, la volonté, enfin lâcher tout, partez sur les routes, qui étaient les mots d'ordre du surréalisme agressif du début, me paraît un peu affaibli dans son exposé, et à mon avis fausse peut-être un peu la perspective.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Julien Gracq. J'ai pensé que ce n'était pas absolument mon sujet d'insister beaucoup là-dessus, car si je m'étais lancé dans les questions de source, de contexte, j'aurais par là même laissé de côté mon projet essentiel qui est l'aspiration vers le vrai. Il est bien vrai que l'aspiration vers le vrai se fait toujours chez les différents penseurs contre quelque chose. Mais il est non moins vrai que si l'on insiste sur ce « contre », on laisse tomber le côté positif de aspiration vers le vrai que j'ai surtout voulu mettre en lumière.
Maintenant, je voudrais dire à Alquier que ce qu'il y a d'a priori surprenant dans son livre, ce n'est pas tellement la rencontre du surréalisme avec la philosophie, mais la rencontre du surréalisme avec la philosophie la plus traditionnelle ou la plus classique, c'est-à-dire Platon, Descartes et Kant. Et alors, il s'agit là d'une rencontre qui ne s'est pas opérée, certainement, dans l'esprit des surréalistes eux-mêmes.
Certainement pas.
Mais qui s'est opérée dans l'esprit d'Alquier. Et ce livre, je crois, est dans une certaine mesure une tentative faite par Alquier de prendre conscience de la compatibilité de ces deux choses. Et alors, il s'agit là de la méditation d'un philosophe classique sur le surréalisme, portant sur la question de savoir comment, n'est-ce pas, son goût pour le surréalisme et son attachement, n'est-ce pas, aux valeurs de la philosophie traditionnelle, pouvaient coexister. Est-ce que ce n'est pas là, au fond, n'est-ce pas, le problème central ?
Oui, je tiens tout d'abord à dire, pour éviter un contresens possible, que ce n'est pas une conciliation après coup. Je tiens à le dire parce que on pourrait penser, et on ne manquera pas de dire, que j'ai été surréaliste d'abord, quand j'avais 20 ans, cartésien ensuite, et que j'essaie maintenant de faire la synthèse des deux. En fait, il n'en est rien. J'ai toujours été cartésien, et j'ai toujours eu pour André Breton la plus grande admiration. Alors, il s'agit de savoir dans quelle mesure j'ai montré, ou je n'ai pas montré, que les deux choses vont ensemble. Il serait évidemment trop long de reprendre ici cette question, puisqu'il faudrait qu'on reprenne et Platon, et Descartes, et Kant. Avec Kant, je ne crois pas avoir dit que Breton était vraiment d'accord. Il n'est d'accord, et il est d'accord, à mon avis, contre Hegel, pour maintenir l'autonomie du point de vue moral et pour dire que la conscience individuelle est la source même de l'action morale. Il y a un certain moralisme chez André Breton, moralisme qui ne se plie absolument pas à la dimension de l'histoire, moralisme qui lui a toujours fait maintenir devant les différentes circonstances historiques, les procès, etc., une attitude qui me paraît qu'ancienne. En ce qui concerne Descartes, la question serait plus complexe. Je crois que la difficulté où l'on est de concilier Breton et Descartes vient surtout de l'idée fausse qu'on se fait de Descartes. Je crois qu'on pourrait trouver des rapports très grands. Et pour n'en citer qu'un, je me permets de faire remarquer que Descartes est le seul philosophe qui ait dit à ce point que le rêve et la veille étaient, dans un très grand nombre de cas, indiscernables. Toute la méditation première porte là-dessus. Et dans toute la méditation première, il se demande à proprement parler s'il veille ou s'il dort. Il y a des lettres à Balzac sur le même sujet, etc. Ce n'est là qu'un exemple, car je pourrais en prendre bien d'autres. En ce qui concerne Platon, enfin, j'ai surtout parlé de la théorie de l'amour. Et il me semble que entre la théorie de l'amour, sinon chez Platon lui-même, du moins dans laquelle, dans le milieu, dans l'atmosphère de laquelle se meut Platon et celle de André Breton, les rapprochements étaient également nombreux.
Tout en rapprochant André Breton et sa pensée de philosophes très classiques, très traditionnels et de leurs œuvres, il me semble que vous avez en revanche éloigné le surréalisme de l'ésotérisme dont on le rapproche très souvent, dont on le rapproche soit comme une de ses sources, soit comme une doctrine avec laquelle des points de convergence sont fréquents. Et c'est une chose qui m'a également beaucoup frappé dans votre livre. Je me demande si Michel Carouge est de cet avis, lui qui a pratiquement consacré un ouvrage à étudier les rapports de la pensée surréaliste et de ce qu'on peut appeler l'ésotérisme.
Oui, à certains égards. Parce que ce qui me frappe dans le surréalisme avant tout, c'est que si en effet il a des rapports profonds avec la pensée la plus traditionnelle, cela ne permet en rien d'exclure qu'il a des rapports non moins intimes avec la pensée la plus révolutionnaire. Et c'est une des antinomies du surréalisme et qui me paraissent les plus frappantes. Je crois qu'il faut faire très attention à ne pas chercher là, de la même façon, des sources au sens où l'on parle dans les études littéraires de sources historiques. Je crois qu'il s'agit de toute autre chose, c'est-à-dire d'une rencontre, par le fait d'une redécouverte vivante. Je ne crois pas du tout, par exemple, pour prendre le cas qui me frappe le plus, la question du point suprême, je ne pense pas du tout que cette expression soit venue sous la plume de Breton après avoir étudié l'ésotérisme. Au contraire, d'ailleurs, je me souviens en avoir le témoignage de lui-même, c'est une pensée qui lui est venue directement, spontanément, et c'est après que l'on peut, pour éclairer la position du surréalisme d'une manière partielle seulement, faire des rapprochements avec la pensée ésotérique. Et alors, je crois d'ailleurs que cette redécouverte est un fait extrêmement important, parce que cela montre que le surréalisme n'est pas simplement un prolongement d'une pensée antérieure, qu'il est une communication avec la vie. Et là, à ce point de vue-là, j'ai été très frappé, en lisant le livre d'Alquier, de voir que... Et il nous parlait d'une manière extrêmement intéressante et vivante des rapports entre le surréalisme et la vie, mais j'avoue que sur ce point, j'ai le sentiment qu'exprimait Julien Gracq tout à l'heure. Enfin, il y a un côté vivant, mais au sens le plus fort du terme, un côté, je dirais, confondant et du surréalisme, un côté qui fait éclater les apparences habituelles de la vie. Il suffit, par exemple, de se souvenir des premières lectures que nous avons pu faire les uns ou les autres de Nadja. Eh bien, il suffisait de voir dans Nadja les photographies du Paris d'aujourd'hui pour voir que immédiatement quelque chose d'autre que ce qu'on croit habituellement se révélait.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Carouge vient de dire. Il y a des rencontres incontestable entre la pensée occultiste et celle de André Breton, et je n'ai pas voulu dire autre chose quand je dis qu'il y a des rencontres entre sa pensée et celle de Descartes. Je crois pour ma part, et je l'ai dit 100 fois, que toute pensée vraiment sincère se retrouve. Je crois qu'au fond, la conscience humaine a certaines structures qui sont toujours les mêmes, et je crois que tous les gens qui cherchent le vrai se rencontrent. Ce qui m'a simplement permis de séparer, plus que ne le fait Carouge, Breton des différences occultistes, c'est sa propre prudence. Je répondrai un peu ce que je répondrai tout à l'heure à Gracq. Chaque fois qu'il s'interroge sur les rapports de la magie et de son œuvre, il dit « Je laisse à d'autres le soin de décider s'il y a là une même source. Je laisse à d'autres le soin de décider s'il y a là une même vision. » Et il y a quand même entre l'ésotérisme et lui, une différence fondamentale, c'est que, à ma connaissance du moins, il n'a jamais décidé que le principe dicton, comme il le dit, était vraiment distinct de lui. Il ne dit pas s'il croit ou non aux esprits, aux autres forces. Et c'est cette prudence qui m'a paru faire de lui plutôt un philosophe qu'un initié.
J'aimerais faire seulement 2 remarques. La première, c'est cette idée de prudence de Breton sur laquelle vous assistez avec beaucoup d'utilité, je crois, et sur laquelle on n'insiste jamais trop. Il y a en effet une grande prudence de Breton, non seulement dans l'ordre théorique, mais également, et cela on ne le répétera jamais assez, dans l'ordre de l'expérimentation, dans l'ordre de la pratique. Il y a un certain nombre de... l'interruption de certains sommeils, ce desnos, je crois, pour des raisons d'hygiène mentale.
Exactement. Enfin,
il y a tout de même une attitude extrêmement équilibrée de Breton, et qui, je crois, extrêmement importante. Et puis, vous faisiez allusion à la question des au-delà. Je crois que là, il y aurait peut-être un mot à ajouter, si vous le permettez. Le surréalisme est toujours à la recherche d'un au-delà, mais c'est toujours d'un au-delà immanent, ou de toutes sortes d'au-delà qui sont tous immanents. Au fond, le surréalisme refuse tout au-delà transcendant, et en particulier tout au-delà après la mort. Et je crois qu'il y a une attitude parfois assez équivoque, comme vous le soulignez vous-même, qui est en effet de prudence, qui est de réserve, mais qui est parfois un peu équivoque, notamment vis-à-vis du spiritisme.
Oui.
Breton n'admet certainement pas l'interprétation spirite, mais il ne la nie pas non plus d'une manière aussi catégorique que le ferait un matérialiste ou un catholique. Enfin.
C'est pourquoi j'ai parlé d'humanisme, d'un certain humanisme tendu. C'est une question. Il dit, il y a une phrase que je cite 2 fois, « Est-il vrai que l'au-delà, tout l'au-delà, soit dans cette vie ?» Il le demande. Et il me semble que l'homme... et que le pur philosophe, c'est-à-dire celui qui ne veut pas prendre appui ni sur une foi, ni sur rien de semblable, en demeure là. Ce n'est pas un matérialiste, au sens vulgaire du mot du moins, ce n'est pas un homme qui nie l'au-delà, ce n'est pas un homme qui l'affirme, c'est un homme qui se demande, à partir de certaines expériences qu'il vit d'une manière très intense, est-il vrai que l'au-delà, tout l'au-delà, soit dans cette vie?
Seulement, il y a tout de même une différence, et une différence d'humeur, je crois, entre le philosophe Alquier et les surréalistes. Différence qu'il a soulignée lui-même, c'est que pour le philosophe, pour le métaphysicien, cet au-delà est inaccessible. Et il s'agit avant tout, la métaphysique, a dit Alquier, est une méditation sur l'absence de l'être. Or, chez le poète surréaliste, il n'y a pas perte de l'espoir de reconquête.
Patry me dit que la métaphysique, selon ma propre définition, est un discours sur l'absence de l'être, et que ce n'est pas le cas chez le surréalisme, dans le surréalisme. Il ne faut point exagérer. La métaphysique discourt sur l'absence de l'être, mais elle affirme qu'il y a un être au-delà. Or, on peut trouver chez André Breton de nombreuses affirmations de ce genre.
Mais n'est-ce pas là alors qu'il nous faut en quelque sorte réintégrer, si j'ose dire, la littérature dans le surréalisme? Peut-être maintenant nous engagez-vous justement à reconnaître que ce moyen d'accession, que cet instrument dont le philosophe est dépourvu, mais que possède le surréaliste, c'est précisément la poésie, c'est précisément la littérature. Car enfin, la littérature et la poésie occupent une place privilégiée dans le surréalisme. Et sans doute faut-il reconnaître cette importance dans la ligne, je crois, de ce que vous disiez à l'instant. Comme un instrument.
J'avoue, je ne suis pas du tout d'accord. Je dirais au contraire, n'est-ce pas, que ce qui oppose les surréalistes aux philosophes, et j'admets qu'il y ait des rapprochements, mais ce qui les oppose, n'est-ce pas, c'est que le philosophe a tout de même un point de vue contemplatif à l'égard de l'univers et de ce, disons, ce qui est autre que l'univers. Tandis que chez les surréalistes, il y a eu, surtout au départ, il y a eu action. Il y a cette recherche, ces recherches de l'écriture automatique. Et il y a tout particulièrement chez Breton la recherche du hasard objectif, n'est-ce pas? La révélation, elle est là. Il faut la chercher. Il y a une question de chance. Il y a une question aussi de recherche. C'est par là précisément. D'ailleurs, c'est un des points que M. Alquier a fort bien souligné, à mon sens, dans son livre. C'est que ce point souvent contesté, mais à tort, c'est que le surréalisme ne fait pas que de la littérature, c'est autre chose. Les arguments de M. Alquier sur ce point me paraissent absolument irréfutables.
Mais je crois également, n'est-ce pas, qu'on ne saurait dire que la philosophie soit purement contemplative, n'est-ce pas, je crois que le but du philosophe, n'est-ce pas, est d'opérer une certaine expérience en lui-même devant l'amener à une certaine transformation. Et ici, n'est-ce pas, le rapprochement serait encore plus évident. Seulement, les techniques, n'est-ce pas, sont différentes. Mais le philosophe vit dans un monde de concepts. Il essaie d'atteindre ce qu'il peut atteindre au moyen de ses concepts. Or, ce n'est manifestement pas au moyen des concepts que le poète surréaliste, n'est-ce pas, cherche à atteindre, qu'il y parvienne ou non, n'est-ce pas, cette même chose.
Peut-on dire que la philosophie se réduise à des concepts? Qu'elle use de concepts, ce n'est pas douteux, mais il y a une certaine expérience philosophique qui est au fondement même,
oui,
de tout.
Oui, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas voulu dire que c'était autre chose qu'une question de méthode que cette utilisation des concepts.
Et ce sont ces deux expériences qui m'a semblé devoir être rapprochées.
Vous venez d'entendre « Thèmes et controverses », revue radiophonique des idées et des lettres par Pierre Cipriot. 51e émission, le surréalisme et les philosophies. À propos de l'ouvrage de Ferdinand Alquier, Philosophie du surréalisme, avec la participation de Robert Amadou, Michel Carouge, Julien Gracq, Aimé Patry et l'auteur Ferdinand Alquier, professeur à la Sorbonne.
Cette émission a été diffusée la première fois le 9 mars 1956 sur la chaîne nationale.